Vous écoutez
RMC.
RMC.
Il y a un truc, je suis désolé.
Oui.
C'est pas Oscar Wilde, mais c'est Oscar Wilde.
Quelle est la différence entre un poussin et un canari?
Le canari, c'est celui du canard, non?
Une dernière question pour Mathieu. Alors, excusez-moi, mais vous, vous étiez à l'Olympiakos, vous avez vu Mitroglou mettre 30 buts. Vous êtes au FC Metz, vous avez vu Nolindrou mettre un doublé. Quand est-ce que vous allez à Paris pour qu'on voit Kurzawa mettre un centre?
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Génération After, comme tous les soirs sur RMC de 20h à 22h. Et bonjour à toi qui nous écoute en podcast avec ce soir, Kevin Diaz. Salut Kevin.
Salut à tous.
En face de toi, Walid Acharchour. Bonsoir Walid.
Salut Nico, salut à tous.
Et avec nous ce soir, l'homme qui a enflammé Nagesser, le stadium, Mathieu de Séville, 409 matchs professionnels, est avec nous. Salut Mathieu.
Bonsoir à tous.
Salut Mathieu.
Heureux de nous retrouver dans Génération After. T'es avec nous bien sûr jusqu'à 22h, hein, je rappelle, Ligue 1, Ligue 2, D1 turc, grec, belge, Toulouse, Olympiakos, Valenciennes, Metz, le Standard, notamment.
C'est bon. Bien le Standard, avec l'accent un peu belge, le Standard.
Tu maîtrises l'accent belge ou pas? Tu l'as pris?
Absolument pas.
Absolument pas, donc t'as raison. Ne t'y aventure pas. T'as dû vibrer ce week-end avec le dénouement du championnat belge, non? T'as regardé un peu la folie?
Non, mais j'ai pu suivre sur les réseaux et c'est vrai que ça a été incroyable.
T'es avec nous jusqu'à 22h donc, et ce soir au programme de Génération After, on commencera par une information RMC Sport. Régis Lebris s'est mis d'accord avec le GC Nice qui doit encore trouver un accord avec Lorient, le Breton. C'est une question que je vous pose. A-t-il le profil pour lancer enfin le projet Ineos? Tout du moins ce qu'il en reste. 20h20, l'avis de Walid. West Ham, c'est la preuve que nos clubs français doivent jouer la Conference League à fond. Restez avec nous bien sûr pour cet avis. Et puis les infos du jour, le Mercato Show, pas mal d'infos à vous donner. Et ce soir, dans Génération After, à partir de 21h, on va faire le bilan. Le vrai bilan de la saison en Ligue 1. Pas celui des trophées UNFP. Hein. Vos équipes types, votre révélation, votre déception également. Ce sera à partir de 21h. Et à 21h45, l'arrivée de Messi aux États-Unis enflamme-t-elle la MLS? On sera avec l'ancien Niçois et Montpellier. Arnaud Souquet, joueur des Chicago Fire, il sera avec nous. Il nous dira comment, eh bien, quelle est l'onde de choc, hein, si elle est importante aux États-Unis après l'arrivée de Léo Messi. À 22h, comme tous les soirs, bien sûr, l'after avec Gilbert Bribois. Bonsoir Gilbert.
Salut les gars. Est-ce que Kevin sait maintenant quel est le fils du canard?
Je sais pas.
Donc il disait que c'était le canari, là, tout à l'heure dans l'extrait.
T'as pas appris depuis?
T'as bossé un peu, Kevin?
T'as pas bossé?
Non, j'ai pas bossé.
T'as envie de rattraper
le fils du canari.
Donc le canton, tu connais pas le canton?
Connais le canton, mais ça c'est le fit. Non, je rigole.
Il est fort. En fait, il en sait pas plus, mais regarde.
Oui, c'est ça.
Il y a un doute.
C'est les groupes Kevin Diaz.
Il y a un doute. Ça.
Et quand il y a un doute,
il y a plus de doute. Okay. Voilà.
Mm-hmm. Et qu'il y a pas de doute.
Voilà, c'est ça.
Donc à 22h, on va parler mercato évidemment. On va nous aussi donner notre avis sur Lebris et pas mal d'infos marseillaises également sur la suite. Info de Flo Germain, quand on l'aura, on débattra de la stratégie de Longoria qui tous les jours s'affine un petit peu plus. Et puis on va beaucoup parler ce soir de la finale de la Ligue des Champions parce qu'elle arrive samedi, ce sera sur RMC Sport. Julien Laurence, Yoann Crochet seront là pour évoquer cette finale, parler de Pep Guardiola et puis ce grand débat qu'on va lancer. Est-ce qu'aujourd'hui, on a déjà tout inventé dans le foot? Eh oui, parce que Guardiola, à chaque fois, dit oui, Guardiola, il invente et tout. Mais est-ce qu'il y a encore des trucs à inventer, en fait? Est-ce qu'on n'est pas arrivé au bout, messieurs les coachs, potentiels?
C'est une matière vivante, le foot.
Un perpétuel recommencement, le foot.
Qu'est-ce que t'en penses?
Oui, évidemment que non. C'est un perpétuel recommencement.
Si ça recommence, c'est qu'on n'invente rien.
Ok, je suis d'accord. C'est bien joué. Mais je pense qu'il y a toujours moyen de faire des.
Après, on peut prendre des idées, les faire évoluer.
Disons que c'est une perpétuelle remise en question.
Exactement.
On n'a pas un jingle sur le recommencement? Bien sûr que si.
Sur l'éternel recouvrement.
Exactement.
Ça, tout à fait.
Et puis, on continuera également à expliquer le chantage de l'UEFA vers la Juve là, par rapport à la Super League. Les détails ce soir dans l'after. Et puis Thibaut Leplat veut parler de foot féminin. On n'en parle pas souvent dans l'after. Donc, on va laisser Thibaut développer ses avis ce soir. Vous allez voir, ça va être intéressant. Alors qu'on est toujours dans un moment où le foot féminin attend de vendre ses droits de la Coupe du Monde, qui pour l'instant n'est diffusée par personne. Ce sera donc tout à l'heure à partir de 22h.
Avec toi Gilbert bien sûr et Thibaut et Daniel. Bonne soirée, à tout à l'heure sur RMC. Nous allons commencer dans un instant sur la thématique Régis Lebris, notre information RMC Sport. D'abord des tours par la porte d'Auteuil, Roland Garros, demi-finale femme, la deuxième de la journée. Bonsoir Eric Salio.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Duel entre Iga Świątek, nom du titre, et la brésilienne Ada Maia.
Oui, et c'est pas fait encore pour la polonaise. Faut vraiment se méfier de cette brésilienne, puisque, ok, il y a 6-2 Świątek, mais 3-2 dans le deuxième set pour la brésilienne Adan Maia, qui est une spécialiste des remontadas. Elle a le break, donc 30 ans, et puis elle est soutenue par le public et aussi par des célèbres brésiliens. Je pense à Rai ou Gustavo Kuerten. L'affaire n'est pas pliée pour la numéro 1 mondiale.
Bah, elle a une histoire dans le tournoi. Où elle a fait des remontadas tour après tour.
C'est beaucoup la déco, alors qu'elle est top 20, je crois.
Oui, c'est une bonne joueuse.
C'est une bonne joueuse.
Oui, c'est ça.
C'est une bonne joueuse qui a eu un petit souci avec un contrôle antidopage il y a quelques années, mais qui est très appréciée dans le vestiaire des.
C'est bien de le dire.
Mais non, mais tout le monde le sait. Mais, bon,
mais ceci ne nous regarde pas.
Non, ça
mais on sent que Świątek doute. C'est ça qui est étonnant. Et en plus, la surface est de plus en plus lente parce que voilà, on arrive à 20h. Et voilà.
À tout à l'heure, mon cher Eric. Régis Lebris a-t-il le profil pour lancer enfin le projet Neos? Car oui, nous allons donc tout droit vers un Régis Lebris à Nice. Hein, on n'aurait pas pu l'inventer, bien sûr. Information RMC Sport. Accord. OGC Nice, Régis Lebris, info Fabrice Hawkins et Maxime Tillette. Maxime qui est avec nous. Bonsoir, Max.
Bonsoir, Nicolas. Bonsoir à tous.
Salut, Maxime.
Donc, bien parti, Maxime, mais c'est pas encore fait, hein?
Non, c'est pas encore fait. Bon, déjà au départ, c'est Florent Ghisolfi et Fabrice Boquet qui ont travaillé avec lui par le passé à Nantes, qui l'idée vient d'eux en fait. Ils ont convaincu ensuite le clan Ineos que
à Lorient, c'était bien. Tu veux dire, oui, Lorient. Ouais.
Oui, oui, à Lorient. Et ils ont convaincu le clan Ineos que c'était l'entraîneur sur lequel il fallait avancer. Les échanges ont été assez constructifs ces derniers jours, puisque eh bien du côté de Régis Lebris, on estime avoir plus de garanties sur le projet niçois que l'orienter. L'intersaison, le mercato, tous les besoins sur certains postes ont même été évoqués. Ça a notamment parlé de différentes pistes pour le poste de latéral gauche à Nice. Maintenant, au-delà de cet accord verbal qui existe entre Régis Lebris et Florent Ghisolfi, bien, c'est Loïc Ferry qu'il faut convaincre, et il a prolongé son entraîneur en mars dernier jusqu'en 2027. Donc, Nice va devoir sortir le chéquier. On sait que le président Lorienté est assez dur en affaires, donc ça peut durer un petit peu encore cette histoire.
T'as raison, il a prolongé il y a 3 ans à Lorient, Régis Lebris. Ouais. Il y a 3 mois pour 4 ans, pardon, jusqu'en 2027. Donc il lui reste bien sûr 4 ans de contrat. Fabrice Boquet, hein, ancien DG de Lorient, bien sûr, qui est DG de Nice aujourd'hui. Florent Ghisolfi, qui lui est à Nice, qui l'a croisé à Lorient quand Ghisolfi était adjoint de Mickaël Landreau. Les deux hommes sont même partis ensemble à Séville pour un voyage professionnel d'observation. Donc tout le monde se connaît très bien dans ce trio-là.
Ils sont en bon terme aussi avec l'entourage de Régis Lebris, l'agent. Donc,
Le mariage semble parfait comme ça, en tout cas. Il y a des vraies connexions entre Régis Lebris et la cellule dirigeante niçoise. Bon, je précise également qu'il peut retrouver Terem Moffi, d'ailleurs.
Oui.
C'est un avantage. Hein.
Bah, il ne sera pas en terre inconnue, quoi.
Il ne sera pas en terre inconnue, exactement.
Avec Claude Maurice aussi.
Avec Claude Maurice également.
Terem Moffi qu'on lui avait enlevé en janvier, après sa première bonne partie de saison.
Ce que l'on sait également ce soir, c'est que la fin de saison dernière s'est mal passée à Lorient entre Lebris et son staff d'un côté et la direction de l'autre, notamment sur la préparation de la saison suivante également, sur un terrain purement sportif. Hein. Donc il y a des tensions entre l'entraîneur Lorienté, l'actuel entraîneur Lorienté et sa direction, ce qui peut expliquer ce départ anticipé, hein, quand on vient de prolonger pour 4 ans. Alors, on fait le débat ce soir, et vous nous appelez supporters Lorienté, supporters niçois également au 32-16. Estimez-vous, niçois, qu'il a le bon profil pour lancer enfin ce qu'on appelle, de manière un peu rapide désormais, le projet Ineos. On ne sait plus vraiment ce qu'il est, ce projet, s'il est si ambitieux que ça. Kevin.
Moi, je pense que c'est quand même une très très bonne nouvelle pour les supporters niçois si ça se confirme, si ça se précise, parce que Régis Lebris, comme on vient de le dire aujourd'hui, ce qui est le plus important dans le football de haut niveau, c'est qu'il y ait une cohérence entre la direction et ce qui se passe sur le terrain et surtout le choix de l'entraîneur. On attendait vraiment le choix de Ghisolfi. Alors on pouvait s'attendre à Franck Haise, on pouvait s'attendre en effet à Régis Lebris avec qui il a déjà travaillé à Lorient, mais je pense que c'est très important d'avoir des process de travail qui sont déjà connus. Ça va faciliter l'adaptation, ça va faciliter forcément la mise en place du projet de Régis Lebris, qui est un projet assez ambitieux, mais qui aujourd'hui, je pense, c'est l'étape normale. Il est resté à Lorient longtemps, même s'il n'a été qu'un an entraîneur de Ligue 1. Il a fait une très très belle saison. Là, il peut rejoindre un projet avec beaucoup de moyens, un projet qui doit enfin se lancer, comme tu disais, Nico. Et donc, je trouve que oui, c'est très cohérent. Et en tout cas, je trouve ça très alléchant. Et je pense que ça a toutes les chances de fonctionner, même si on sait que dans le foot, des fois, on pense que tout est en place et ça ne fonctionne pas. Mais
déjà, Nico, pour moi, il y a deux débats, parce que il y a eu une petite polémique aujourd'hui sur les réseaux sociaux sur l'ingratitude potentielle de Régis Lebris avec son possible départ à Nice par rapport à tout ce que Lorient lui a apporté, par rapport aussi à sa prolongation. On en a longuement parlé hier avec Julien Stéphan, les décisions de coach quand il y a une hype, quand le train passe dans un club avec plus d'ambition, quand on sait qu'aujourd'hui il a fait une belle saison avec Lorient, mais surtout une belle première partie de saison parce que il a été... On lui a enlevé.
Il a été pillé cet hiver.
On lui a enlevé deux joueurs majeurs avec Ouattara qui est parti à Bournemouth et Terem Moffi qui est parti à Nice, que Enzo Lefebvre va partir, qu'on parle de Talbi qui va sûrement partir. Donc on sait très très bien qu'à ce moment-là, pour un Régis Lebris, ça peut être compliqué de faire une deuxième année aussi bien, voire mieux dans un club comme Lorient. Et la deuxième des choses, c'est ok, le choix du côté de Nice. Et moi, je vais me joindre un petit peu à Kevin, même si attention, moi je l'ai déjà répété, je suis pas le plus grand fan de Régis Lebris dans la nouvelle vague des entraîneurs. Moi, j'ai préféré bien évidemment le projet de jeu de Will Steele, par exemple. Moi, je trouvais que Régis Lebris...
Pas bien évidemment. Pourquoi tu dis bien évidemment, comme si ce serait logique de préférer le jeu de Will Steele par rapport à celui de Lebris?
Moi, j'ai préféré...
Qu'est-ce que tu as préféré?
J'ai préféré les intentions, j'ai préféré la ligne de récupération très très haute, j'ai préféré le pressing. J'ai trouvé que Lorient, même dans sa bonne période, avait beaucoup plus de principes de belle relance, mais c'était plus de l'adaptation, avec un bloc un peu plus bas. Je trouve que les intentions n'étaient pas aussi belles. Maintenant, attention, je dis que Régis Lebris a fait du très très bon boulot. Il y a eu une progression des joueurs qui a été extraordinaire. On les a cités tout à l'heure. Moffi était à la cave, il l'a relancé. Ouattara, Enzo Lefebvre, Talbi, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que va falloir voir s'il a le costume. Mais on a un Gisolfi et un Fabrice Boquet qui essayent de reproduire finalement ce qu'ils ont réalisé dans leur club précédent. À Gisolfi avec Francaise. Moi, j'imaginais pas Gisolfi partir sur un entraîneur beaucoup plus huppé avec un standing, un anglais. Par exemple, on parlait de Graham Potter, etc. Un entraîneur qui allait pas être star, mais qui allait quand même représenter beaucoup
de... Oui, c'était la volonté des Anglais notamment.
Il change quand même de un peu d'orientation, parce qu'avant, c'était quand même sur ça ce qui était parti.
C'est
avec Lucien Favre.
Mais je suis pas surpris.
Il est dans l'inconnu malgré tout et sur un jeune entraîneur.
Mais je suis pas surpris de la logique de Gisolfi de par le profil de Régis Lebris. Maintenant, est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas. Mais je trouve que, comme le disait Kevin, c'est plutôt cohérent par rapport à ce que Gisolfi avait fait à Lens, par exemple. Et je pense qu'il est en train de recopier un petit peu ce modèle avec Régis Lebris.
Ce qui est intéressant, Maxime Siette, qui est avec nous, notre correspondant à Nice, c'est que si on pouvait en douter il y a encore quelques jours, quelques semaines, c'est que visiblement désormais on écoute Florent Gisolfi.
Oui, bien sûr. Il y avait notamment Dave Brailsford qui avait pas mal son mot à dire. Ces derniers temps, il est un petit peu plus en retrait parce que Jean-Claude Blanc aussi a poussé pour que les nouveaux arrivés, les nouveaux arrivants, Florent Gisolfi et Fabrice Boquet, aient quand même un peu plus leur place dans ce projet et insufflent ce nouveau projet dans le projet Ineos, parce qu'il y a un virage qui est pris un peu cet été avec des investissements peut-être un peu plus raisonnés, moins la volonté d'aller chercher des starlets, des joueurs à relancer, des anciens espoirs, des noms plutôt que des profils. Et donc là, on estime que les gros investissements ont quand même été faits sur certains joueurs. Il y a Sofiane Diop qui est arrivé pour plus de 20 millions. Pareil pour Terem Moffi. Il y a pas mal d'investissements qui ont été faits par le passé. Certains ont été mauvais, certains n'ont pas marché. Mais aujourd'hui, il y aura encore une enveloppe pour le mercato cet été. Mais il va falloir s'ajuster parce que le gros du travail a été fait. C'est à Florent Gisolfi de reproduire un petit peu ce qu'il a su faire à Lens.
Merci Maxime, on te retrouvera plus tard également dans la semaine et dans les prochaines semaines avec le Mercato Nice. On va prolonger sur Nice, Kevin, dans un instant. On aura Omar également au 32-16. Donc notre information RMC Sport, accord trouvé entre Régis Lebris et l'OGC Nice. Vous pouvez nous appeler, supporter niçois au 32-16. Omar, supporter de l'Orienté, sera avec nous également dans un instant. Vous écoutez RMC, c'est Génération After, il est 20h15 et on revient dans quelques secondes. À tout de suite.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin. Avec Kevin Diaz, avec Walid Acharchour et Mathieu Dosévi, on est ensemble jusqu'à 22h. On parle de Nice, reste avec nous à 21h. On fera le bilan Ligue 1, les équipes types de Walid, Kevin et Mathieu. Et vous aussi d'ailleurs, vous pouvez nous les envoyer sur l'hashtag RMC Live et vous serez avec nous aussi au 32-16 pour nous parler de vos équipes types de Ligue 1 cette saison. Vos révélations, vos déceptions également sur le plan individuel. On parle de Nice donc avec cette information RMC Sport. Régis Lebris, accord trouvé avec le GC Nice. Dans un instant, je vais accueillir Omar. D'abord, Mathieu, ton avis sur d'abord le travail de Régis Lebris. Et c'est vrai qu'on peut se dire c'est un entraîneur, c'est surtout un formateur au départ, qui n'est pas non plus un jeune homme, c'est un quadragénaire qui a prouvé qu'il faisait des choses, pouvait faire des choses très bien, comme l'ont dit Kevin et Walid cette saison à Lorient. Est-ce que c'est un peu précipité ce choix niçois sur Régis Lebris ou pas? On ne connaît pas assez bien encore.
C'est pas précipité. Ça dépend uniquement de la direction que veut prendre Nice, en fait. On voit bien que là, en prenant ce choix-là, il change quand même radicalement de stratégie. Comme j'ai dit, avant, ils étaient partis quand même sur des entraîneurs plutôt clinquants, un peu plus huppés, avec Lucien Fabre et Galtier. Là, voilà, il y a une part d'inconnu. Il a qu'une année en Ligue 1. Bah, quand tu fais un pari comme ça, tu sais pas, ça peut marcher. Est-ce que c'est pas la même chose? Est-ce que tu fais ça sur le long terme? Est-ce que c'est pour le court terme? Est-ce que tu veux être plus proche de ta formation? Donc voilà, va falloir que aussi ils mettent des choses un peu claires publiquement, qu'on sache dans quelle direction ils vont, quoi.
Si Le Bris arrive, on aura une conférence de presse avec tous ces détails-là et on en saura un peu plus. Mais là où c'est intéressant d'embrayer sur ce que dit Mathieu, c'est que peut-être que l'histoire du clinquant Ineos bling, on ne sait pas combien de temps ça va continuer.
Oh, et puis en plus, ils voient que ça n'a pas forcément marché.
Exactement.
Dans les médias.
Par rapport à Ineos, on ne sait pas s'ils vont prendre Manchester United ou un autre club. Il y a aussi un petit peu cette zone d'ombre là-dessus. Les 5 dernières années, ça n'a pas finalement pris plus que ça. Est-ce que un ticket Gisolfi, Boquet, Le Bris, avec un peu plus de travail, un peu plus d'humilité, un peu moins de clinquant, avec un peu plus de formation, avec un peu plus d'idées sur le mercato des transferts, est-ce que déjà ça va pas mettre un peu moins de pression à Nice?
Peut-être.
Et puis repartir sur quelque chose d'un cycle.
Et voilà, dans la communication également, on est là sur plusieurs saisons, on va reconstruire.
Nous, on vient d'arriver.
Voilà,
ce qui a été fait avant, c'est pas, entre guillemets, notre problème. Nous, on veut repartir sur quelque chose de nouveau, de neuf, et travailler avec du temps comme à Lorient, comme à Lens. Et moi, je trouve que en termes d'histoire, moi, je pourrais, oui, en tant qu'observateur, adhérer, exactement.
Et puis même, quoi qu'il arrive, comme a dit Kevin, le fait d'avoir un entraîneur qui va travailler main dans la main avec ses directions, quoi qu'il arrive, ça peut être que bénéfique. Mmh. Ça, c'est clair et net. T'as pas de distension. Tu sais que le mercato va être fait en cohérence, en adhésion avec les deux parties. Et ça, c'est ça qui te fait avancer loin. Qu'importe le club, qu'importe les ambitions, c'est ça qui va te permettre d'aller loin. Donc,
c'est pour ça que, pour aller dans votre sens, quand un nouveau propriétaire arrive dans un club, le plus dur, c'est le choix du directeur sportif, bien sûr, ou de l'encadrement, en l'occurrence, qui est quand même assez large dans un club de Ligue 1. Et après, c'est toute cette petite équipe qui doit bien se regrouper pour choisir le bon entraîneur. Et c'est là où j'ai juste envie de donner l'exemple de Newcastle. Parce que pour le coup, bravo. Mmh. Quand t'arrives avec un si riche propriétaire et que tu décides d'aller chercher Eddie Howe, alors moi qui ai suivi la Première Ligue c'était une petite surprise, mais pas vraiment, parce que si t'as suivi, tu sais que c'est un mec,
oui,
qui a fait monter Bournemouth de 4e à Première Division, c'est énorme.
Mais on pensait un peu plus de clinquant.
Ouais, oui, c'est ça. Même pour les joueurs, ils ont gardé les Callum Wilson, ils ont gardé les mecs.
Non, mais ça peut être vu par certains supporters niçois,
quoi qu'il arrive. Quand tu vois toutes les grosses écuries qu'il y a.
Ce choix de Régis Brice peut être vu par certains supporters niçois comme une baisse d'ambition.
Non, mais alors là,
il faut être clinquant. Ça peut être considéré par certains comme une ambition.
Ça peut être bénéfique.
On a parlé de deux herbes,
c'est légitime de penser ça. Non, quoi qu'il arrive, c'est légitime de penser ça. Mais il faut quand même. Si, parce que quoi qu'il arrive, quand t'as habitué entre guillemets à quelque chose de plus clinquant, quand on revient un peu à des choses un peu plus simples, bah forcément tu te poses des questions, donc c'est légitime de se poser cette question là.
Après Nico,
mais faut aller un peu au-delà de ça.
Sur deux herbies, Nico fallait être lucide 2 minutes,
oui,
hein, fallait accadrer.
Il était sur une liste,
oui, non, moi je dis qu'ils peuvent pas être déçus, parce que les supporters niçois, c'est des gars qui, pour la plupart, en tout cas à chaque fois qu'on les a nous dans l'after, ils connaissent le foot. C'est des mecs qui sont assez lucides. Ils râlaient sur Vieira, ils râlaient sur Urcea, ils râlaient sur Galtier, ils râlaient sur tout le monde.
Il y a
un moment, ok, ils ont essayé plein de choses quand même, Ineos. Ils ont essayé des noms avec Vieira, ils ont essayé
de faire revenir Lucien Favre.
Voilà, ils ont réessayé Lucien. Bon,
Galtier.
Il y a un moment. Écoute, le Régis Le Bris, ok, on peut considérer que c'est qu'une sensation. Moi, c'est pas mon cas, parce que il faut pas que voir le jeu. Il faut aussi, pour le coup, merci à Thibaut Leplat. Il faut aussi lire, entendre le discours.
Ah oui, c'est un gars, on est sûr.
Moi, si je suis supporter niçois, je sais qu'il y a un mec qui vient, qui est compétent.
Oui.
Après, le football,
voilà.
En rentrant, le poteau sortant, ça, c'est autre chose. Il va pas tout maîtriser.
Il y a une idée, une identité.
C'est un mec qui sait ce qu'il sait faire, qui le fait plutôt bien. Comme tu dis, c'est peut-être pas le jeu de Deserbi, de Will Steel, ce qu'on a vu, un football agressif, etc. Mais par contre, il a une grande corrélation et une grande acquaintance, dédicace à Julien Cazard, avec
Gisèle. Non, j'accueille Omar. Omar, au 32e supporter, l'orienté. Bonsoir, Omar.
Salut, Omar.
Oui, bonsoir messieurs, vous m'entendez bien?
Mais très très bien, très bien. Bonsoir Omar, bienvenue, bonsoir, supporter des Merlus. Je le disais, alors comment tu réagis quand tu découvres ça aujourd'hui?
Ben, vous écoutez, il n'y a personne qui pense à ce que va perdre Lorient justement. Personne ne pense à ce qu'on pourrait devenir. Tout le monde dit qu'est-ce que pourrait gagner Nice. Moi, ce serait surtout un message à faire passer justement à notre président. Qu'il ne faut pas qu'il cède à chaque fois aux sirènes de l'argent, forcément. On a déjà été dépouillé de contre une belle somme de deux très très bons joueurs cet hiver. Justement, qui sont partis à bon moment, chez l'actionnaire, le nouvel actionnaire. Et par rapport à ceci. Allô.
Oui, on est là, on t'écoute.
Excusez-moi, excusez-moi.
Parfois, on ne coupe pas la parole, ouais, ça
si
arrive.
Si tu veux, on peut te couper la parole. Hein.
Non, parce que j'ai l'habitude d'écouter Daniel et tout, c'est pour ça, Giro.
D'accord, mais écoute, vas-y.
Même Walid, il coupe la parole.
Vas-y, Omar.
Non mais comment s'appelle Oscar Walid, on ne dit rien pour lui.
Waouh, ça y est, c'est déposé. Hein.
Bravo.
On est compatriotes.
C'est Walid, c'est là qu'on va tout écouter. Par contre, on lui coupe la parole là, vas-y.
Ah, c'est lui qui a réclamé.
C'est parce que c'est mon compatriote nord-africain, c'est pour ça que tu peux rien dire. Oui.
Vas-y.
Et du coup, oui, là, on va perdre encore. Si vraiment ça se fait, il y a un accord, on va perdre juste le plus. Moi, on vient de remonter en Ligue 1. On a fait quelque chose de correct cette saison. J'aimerais bien qu'on. Je ne veux pas forcément qu'on joue direct le haut du tableau, mais au moins qu'on arrive à se maintenir sur 2-3 ans de manière régulière avec un jeu qui est assez agréable, tout en diminuant certaines défaites et certains matchs à ne pas perdre ou à gagner justement. Et après, on peut envisager de changer quelque chose. Pour l'instant, moi, je pense qu'à Lorient, on devrait rester dans la continuité avec Régis Lebris, ne pas perdre trop de joueurs, ne pas perdre trop les staffs techniques et tout ça, pour justement stabiliser la situation du FC Lorient pour l'instant en Ligue 1. Et après, pourquoi pas, d'ici 2 ans, voir autre chose. Sachant qu'en plus, comme vous l'avez dit, c'est la première expérience au très haut niveau pour Régis Lebris.
Le problème, c'est que toi, quand tu dis qu'il ne faut pas qu'ils partent entre guillemets pour l'argent, etc. Mais ces clubs-là vivent aussi de ce genre de plus-value. T'es jamais sûr de faire deux fois la même saison.
Et c'est compliqué
quand t'as des bonnes offres, que ça soit.
Attends, on écoute Mathieu.
Quand t'as des bonnes offres, que ça soit pour les joueurs ou les entraîneurs, c'est toujours compliqué. Alors évidemment, t'essayes d'avoir le plus possible dans les négociations, mais c'est très compliqué de rester inflexible et de laisser passer le train.
Mais Omar, t'en veux à Régis Lebris, toi?
Pas forcément, maintenant. Lui, il pense à sa carrière, il pense à son développement personnel. Moi, je pense que c'est surtout à notre politique du président qu'il faut qu'il puisse retenir ses meilleurs joueurs et ses meilleurs éléments.
C'est difficile pour ces clubs-là.
Je sais très bien.
Moi, je pense que Régis Lebris, il le sait. C'est le game, c'est comme ça. T'es Lorient, tu dois vivre des transferts. Maintenant, Régis Lebris, moi, je pense aussi que ça doit être très difficile pour un entraîneur, même si tu le sais, même si tu connais les règles du jeu. Quand tu prends comme ça,
Il y a une fatalité quand t'es entraîneur à Lorient, voilà. Que tu vas te faire piller.
Par rapport à quoi?
Bah, c'est difficile parce que quand même, il a créé un truc monstrueux sur les premiers mois pour Lorient. Il s'est quasiment maintenu à la trêve. Ouais. Et quand tu perds deux, t'en perds pas un, t'en perds deux. Ah. Bah, franchement, ça doit être très très compliqué. Même si tu connais les règles, tu te dis toujours, voilà, tu connais les règles du poker, mais quand tu perds avec la paire d'as contre 8 et 2, bah t'es dégoûté quand même, tu vois.
Voilà pour le dossier Régis Lebris. Hein. Il sera question également dans l'after de son cas avec Thibault Leplat, qui est le spécialiste, docteur S Régis Lebris.
Et en plus, qui en parle. S'il allait dans le sud à Nice, il rentre.
On va les avoir, les infos.
Là, je peux te dire que là,
Thibault Leplat en connexion directe à Nice.
Il pouvait pas rêver mieux.
Là, Thibault Leplat, il fait un abonnement à l'Alliance.
Ah ouais, non, mais.
Merci Omar d'avoir fait le 32-16. Très bonne soirée à toi. Très vite sur RMC. Le tennis. Roland Garros avec Eric Salio, la demi-finale femme. Swiatek à Dan Maia, Eric.
Ouais, très, très indécis, cette fin de deuxième set. 1-7-0 Swiatek, on le rappelle, 6 jeux à 2. Mais 4 partout dans la deuxième manche avec une Iga Swiatek qui doit sauver des balles de break sur sa mise en jeu. C'est vous dire si l'issue de cette deuxième demi, elle est pas connue, loin de là, parce que cette Brésilienne est très accrocheuse, très physique. Faut voir que Swiatek serre les boulons, comme on dit.
À tout à l'heure, Eric. On vient dans un instant à la suite des générations after. La vie tranchée de Walid. Dans quelques secondes, West Ham, vainqueur de la finale de Ligue Europa Conférence. C'est la preuve que nos clubs français doivent jouer à fond la C4. Restez avec nous, avec Mathieu Dosévi, Kevin Diaz et Walid Acharchoura tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération after.
Nicolas Jamain.
Génération After sur RMC avec Walid Acharchour, Kevin Diaz et Mathieu Dosévi. On est ensemble jusqu'à 22h. Tiens, complément d'information également, Ouest France a annoncé que Julien Stéphan était notre ami, Julien Stéphan. qui était avec nous hier pendant deux heures dans Génération After.
On a eu des beaux retours sur l'entretien.
Avait été contacté par Lorient après un éventuel départ de Régis Lebris à Nice. Hein. Selon nos infos, il n'y a rien de concret du tout pour l'instant. En tout cas. Voilà, sachez-le. Vous pouvez écouter un podcast émission d'hier. Hein. Deux heures de masterclass.
Oui, c'était intéressant. Oui, c'était
très intéressant de parler à un entraîneur référencé en Ligue 1. En l'occurrence, Julien, Stéphane, t'as écouté, Kevin?
J'ai écouté ce matin en podcast.
T'as retenu quoi?
Écoute, j'ai retenu que c'était un entraîneur qui cherchait un travail et qui voulait le faire savoir. Mais après, ça fait partie du jeu. Mais forcément, on sait que je l'ai trouvé très à l'aise dans la communication et dans les éléments de langage.
C'est un de ses points forts aussi.
C'est vrai que ça il sait faire. Après, j'ai bien aimé parce qu'il a quand même une auto-analyse. On sait que pour un entraîneur, c'est quand même difficile.
Autocritique aussi, même.
D'avoir une analyse réflexive de ses performances et de ses prestations, voire de ses parcours ou de ses choix. Ce qui est le plus difficile. De toute façon, je pense qu'on sera d'accord, que ce soit un joueur, un entraîneur, un président, un directeur sportif, il faut arriver à bien analyser ses performances pour pouvoir progresser. Et je pense que là-dessus, il l'a fait. Ça a forcément été dur pour lui.
Et de discuter avec nous aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont cette condescendance, même au-delà des entraîneurs, même les anciens joueurs, les consultants. Hier, on était quand même, il y avait moi, Sofiane et Jonathan, et de se mettre entre guillemets pas à nu, mais discuter de football de cette manière, être jugé avec pas énormément d'ego. J'ai trouvé ça, moi, hyper plaisant et hyper intéressant.
Tout à fait, parce qu'il y a plein de coachs hein, qui, ouais, bien qu'ils soient à la recherche d'un nouveau projet,
pas discuter,
ne viennent pas forcément ici, parler avec nous, exactement.
Bon, il a quand même dit que les médias, ça lui manquait pas.
Non, non, il voulait dire l'inverse, en fait.
Ah oui?
Oui, c'est ça.
Ok.
Exactement. West Ham, avis de Walid dans un instant, maintenant même. West Ham, c'est la preuve qu'il faut jouer, que nos clubs français doivent jouer à fond la Conférence League. Jingle, Walid.
Donc c'est pas un dog.
Je viens de me faire gifler de mots là, c'est incroyable.
Face à Thibaut Leplat, voilà.
Oui. Ah ouais, d'accord. Donc avis sur West Ham, juste, il vient de nous parler de Will Steele, tout ça. Là, tu nous fais un avis sur le West Ham de David Moyes.
Non, mais
okay. Non, mais ah ouais, d'accord.
L'intitulé est un peu fourre-tout. L'idée, c'est pas de parler de West Ham. L'idée est parler de
des clubs français.
C'est David Moyes.
Des clubs français et de surtout de cette compétition, parce que on l'a évoqué depuis le début de saison. Moi, j'avais énormément d'attentes envers nos clubs français en Europe, au-delà de la Ligue des Champions, surtout de la Ligue Europa et la Conference League. La même chose l'année d'avant, avec Rennes et l'Olympique de Marseille qui ont joué la Conference League en perdant contre Leicester et contre Feyenoord. Cette année, Nice contre Bâle. Cette année, en Europa League, on a Rennes qui s'est fait sortir par le Shakhtar, qui derrière a pris une valise contre Feyenoord. On a Monaco qui s'est fait éliminer par Leverkusen. Et je voulais vraiment parler de cette nouvelle compétition où il y avait beaucoup de doutes à son arrivée. Ah, mais c'est quoi cette C4? Et on s'est beaucoup battu avec tonton Roland, qu'on adore, sur la fameuse coupe en carton et pourquoi on va la jouer jusqu'au bout et pourquoi, etc.
Mais pas que les semaines à trois matchs.
Exactement, mais pas que Roland. Hein. C'est un avis qui se défend pour beaucoup, même des supporters qui te disent non, faut aller chercher cette troisième place ou cette deuxième place pour aller jouer la Coupe d'Europe l'année prochaine plutôt que de perdre de l'énergie dans ces coupes. Et quand je vois la saison de West Ham en Première Ligue, quand je vois comment ça se termine avec cette Coupe d'Europe, avec les investissements qu'ils ont mis, parce qu'ils ont mis énormément d'argent pour construire cet effectif, quand je vois la Roma l'année dernière, quand je vois Feyenoord, quand je vois la Fiorentina, je me dis sincèrement
la Z d'Alkmaar,
je me dis sincèrement que cette compétition est faite pour notre championnat et on doit avoir l'humilité de se dire que ça peut être une coupe où on peut avoir des épopées européennes pour des clubs intermédiaires, qu'il faut construire ces émotions pour ses supporters et que je ne comprends pas comment en début de saison ceux qui la jouent n'en font pas un objectif. Je vais employer ce mot-là, prioritaire. Prioritaire, parce que moi, on a essayé d'en discuter avec Julien, Stéphane, même en off hier, sur la différence qu'il y a entre les clubs étrangers et les clubs français sur cette capacité à vouloir faire des résultats en Coupe d'Europe. Et moi, je trouve, c'est un avis hein, comme ça, mais j'aimerais le partager avec Mathieu et avec Kevin qui ont joué à l'étranger, qui ont joué au foot au très très haut niveau, contrairement à moi, que parfois, en fait, on galvaude, on met de côté, on accepte l'élimination en Coupe d'Europe on passe à autre chose finalement très très rapidement en disant nous de façon la priorité c'est d'y retourner l'année prochaine et si on est éliminé ben on est éliminé. Même chez les observateurs, moi on a vu cette année certains observateurs accepter une quatrième place en Ligue des Champions, accepter une élimination contre le Shakhtar Donetsk. Fallait pas être très dur pour certains directeurs sportifs, on l'a vu encore avec Florian Maurice là récemment. Et moi ça me dérange, et quand je vois ce qui se passe à l'étranger, je me dis que ok, la Ligue des Champions peut-être elle est pas faite pour nous, pour tous les clubs. On en a discuté la dernière fois avec Kevin, on s'est un peu écharpé. Mais
il y a qu'un club.
Ok, l'Europa League peut-être aussi, et encore, moi mais je oui, pense qu'il y a débat.
Mais la l'Europa League, c'est bon.
Mais la conférence.
L'Europa League, on est dimensionné. Moi je pense qu'on est vraiment dimensionné, PSG à part, oui, Conférence League.
Ah bah bien. Oui, mais conférence.
Quand je dis dimensionné, c'est pour jouer une finale peut-être de Coupe d'Europe.
Hein, conférence League. Europa, t'es côté.
Europa, t'es conférence. Pour moi, Lyon, OM et Monaco sont dimensionnés pour faire une demi-finale d'Europa League. Minimum, dans le dernier carré. Et la même chose pour la conférence League. Et on a un exemple qui va arriver très rapidement. Une équipe comme le LOSC l'année prochaine. Qui a quand même une histoire un peu européenne sur les dernières années, j'ai envie qu'ils se donnent les moyens d'aller faire un résultat. La gagner, peut-être pas, mais en tout cas, se donner les moyens. Donc voilà, c'était un petit peu mon appel du soir.
Non, je trouve que c'est toujours une question d'humilité. J'ai toujours l'impression que ça, c'est secondaire. C'est pas.
C'est ça, Mathieu.
C'est pas glorieux, ça fait pas kiffer. Donc voilà, ça se joue. Je pense que c'est plus par rapport même aux dirigeants, la façon dont ils forment leur équipe pour être prédisposés à aller au bout de ces compétitions-là. Parce que t'as l'impression que on va pas perdre trop d'énergie, on va pas, parce que c'est pas clinquant. Dans les autres pays, bah voilà, c'est le championnat est peut-être forcément un peu moins clinquant, donc on met une priorité là-dessus, ouais. Pour les joueurs, pour les supporters. Il y a un engouement derrière toutes ces coupes.
Tu as vécu en Belgique avec le Standard, Olympiakos,
ouais,
etc.
En Grèce, c'est des championnats qui sont moins clinquants que la France, donc il y a un aspect prioritaire par rapport à ça, et tu fais ton équipe un peu par rapport à ça. Alors qu'en France, l'impression c'est toujours voilà, ça fait pas trop rêver, même pour les supporters, je suis sûr qu'ils sont, si ça va au bout, ils sont contents, mais je sais pas, c'est une question de ouais, évidemment, ça sort en France, c'est quelque chose qui a du mal à se mettre en place. Je sais pas ce qu'il faudrait pour qu'il y ait un élan autour de ces équipes qui puissent, ce qu'on dit, il y a largement les moyens en France de pouvoir aller loin et gagner.
C'est pas que la faute des clubs également, c'est la faute des médias,
complètement d'accord.
Des supporters également.
Sur les premières journées de phase de poule en Ligue Europa ou Ligue Europa Conférence, les stades, ils sont loin d'être pleins.
Non, mais c'est ça en fait.
Tu vois, même le public français déserte ce genre de compétition.
C'est même pas que le public. Moi, j'ai écrit, tu vois, là, j'ai écrit, c'est général.
Écrit.
Bien sûr, des fois. Je fais des fautes, mais j'écris. C'est général. Donc, je vais englober, bien sûr, nous les médias.
Nous
aussi. Parce que quand Walid dit Marseille doit sortir de la poule de Ligue des Champions avec Sporting, avec
Francfort
et Tottenham, non en fait, non mais là on est en Ligue des Champions. Mais tu l'as dit tout à l'heure, la semaine dernière.
Oui,
mais peu importe.
Vas-y.
En fait, il y a pas de, ils doivent battre Bâle, ils doivent battre ceci. Non, il faut qu'ils fassent le maximum pour battre. Il n'y a pas de « ils doivent » en fait. Les clubs français, ils doivent battre personne, puisqu'ils battent personne.
Oui, mais d'accord.
D'accord. Donc il y a un moment, ça fait 15 ans qu'avec Daniel, on avait ces discussions à l'époque avec Jérôme, moi quand j'ai débuté l'after, « Oh, vous n'allez pas me dire que la Eredivisie, ils sont... » La Eredivisie, l'année prochaine, ils vont nous dépasser, les gars. Ils ont 90 millions de budget droit télé pour toute la compétition.
Mais notre débat,
attends, c'est pas un autre débat, c'est le même. Non. C'est le même. Tant que nous, observateurs, on aura la même mentalité que dans les clubs, faudra pas le reprocher.
Moi, au contraire, moi, je pense qu'on ne doit pas satisfaire de la médiocrité.
Mais on
se satisfait. Plus d'humilité.
Voilà. Plus d'humilité pour tout le monde.
À l'instant,
voilà.
Mathieu disait que peut-être qu'en Belgique ou en Grèce, on estime que leur championnat n'est pas assez clinquant. Donc, on veut se faire connaître sur la scène européenne. Mais la Ligue 1 n'est pas clinquante. Il faut arrêter avec ce
concept. Mais moi, on est d'accord.
Elle n'est pas clinquante, en réalité. Si les mecs pensent que leur Ligue 1 est ultra valorisée et valorisante, je suis pas
sûr qu'ils pensent comme ça. La Ligue 1, le problème de les gars, j'ai parlé avec quelqu'un et je voudrais faire un petit big up à ce club. Le club de Arouca au Portugal. Ouais. C'est qualifié de cette saison pour la Coupe d'Europe. Ouais. Messieurs. Ils ont 3 millions d'euros de budget. Mais vous vous rendez compte ce que c'est? Ils vont jouer la Coupe d'Europe avec 3 millions d'euros de budget.
Ligue Europa Conférence, hein, c'est ça?
Oui, mais une Coupe d'Europe.
Très bien, très bien.
Pas moi. S'ils tombent contre un club français, je vais pas dire le club français doit gagner parce qu'on a déjà perdu contre des clubs contre les clubs portugais.
En fait, t'inverses le problème.
Non, j'inverse pas le problème. Non. Je dis qu'il faut respecter tout le monde. Que ce soit un club et des fois, même les analystes, les consultants, les journalistes. Une fois qu'on aura fait ça, ça va déjà rabaisser le caquet de tout le monde. Et les joueurs sur le terrain, ils vont se dire attention. Là, les gars, j'ai lu l'équipe ce matin, mais peu importe. Hein. Peu importe que le mec, il était en National 2 il y a 3 ans, que là, il a fait un parcours, il est là, il a le niveau. Donc, à partir du moment où tout le football français, que ce soit les acteurs, les observateurs, respecteront ce genre d'équipe, là, peut-être qu'on va pouvoir avancer. Et je finirai juste par dire que, aux Pays-Bas, la Coupe d'Europe, ils jouent pour la gagner. AZ Alkmaar, ils ont 10 fois moins de budget que Lyon, ils jouent pour la gagner. Oui, mais ils vont peut-être pas la gagner, ils l'ont pas gagné. Mais ils jouent pour la gagner. Et ça, c'est ce qui nous manque. Nous, on joue pour passer le premier tour. Nous, on joue pour, c'est ce que je te disais. Nous, on joue pour se qualifier en Europa League. Non. Il faut aller, l'Ajax, ils vont pas la gagner. Mais ils jouent pour la gagner.
Et Kevin, en fait, tu dis deux choses différentes.
Non, je dis la même chose.
Bon, on fait une pause et tu vas réagir dans un instant. Ambition, on va prolonger. On devait pas faire plus long, mais, bien sûr,
c'est un débat intéressant parce qu'on va encore
s'écharper. Qui nous passionne, un débat intéressant. Ah, c'est pas forcément pour ça. Vous pouvez vous écharper, les gars.
Oui. Les dilemmes s'écharper.
Vous avez le droit.
Dilemmes s'écharper.
Parce qu'avec Kevin,
Mathieu est là aussi.
On est toujours globalement d'accord, mais.
En fait, non, tu vas participer à l'écharpage en règle.
En fait, on va au même endroit, mais on n'emprunte pas le même chemin.
C'est beau. Oscar Wilde, qui a frappé ce soir dans
c'est à noter ça encore. C'est du biscuit.
On va dégonfler un tout petit peu quand
ça,
même.
Ça, c'est du biscuit.
Allez,
ça.
On vient dans un instant dans Génération After sur RMC 20h42. À tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamin. Avec Kevin Diaz, avec Walid Acharchour et Mathieu de Séville, Génération After, hein, tous les soirs de 20h à 22h. À 22h, Gilbert, Daniel et Thibault prendront le relais jusqu'à minuit pour l'After. Bien sûr, bonsoir à la Twitcherie. Qui nous écoute également ce soir.
C'est l'EMU, c'est qui?
L'EMU aux commandes.
Salut l'EMU.
Bonsoir à tous, hein, la chaîne Twitch RMC Sport.
On t'accompagne l'EMU, on t'accompagne.
Où est diffusée Génération After.
Je vous conseille le replay de mardi. L'after sur Twitch, c'est ça.
Avec
l'EMU et
l'invité,
un mec qui est au Pays-Bas, je crois.
Kevin Diaz. Qui? Van Persie.
Ouais, c'est ça.
Ah oui, purée, je vais aller tout seul. Hein,
allez, on prolonge.
Autre chose.
Van Der Diaz, c'est pas mal.
C'est Gilbert qui avait trouvé.
La cheville est aussi souple que Van Persie ou...
Non, même pas. Non, il faut rester lucide.
Notre débat traditionnel éternel, pour qui nous prend-on sur la scène européenne pour avoir des résultats aussi affligeants depuis de nombreuses saisons, incapables de ne serait-ce jouer une finale, au moins une demi-finale de Ligue Europa Conférence. C'est notre débat. Alors bien sûr, il y a débat entre Kevin, Walid et Mathieu pour nous appeler au 32-16 pour en parler également. Tu voulais réagir à ce que disait Kevin?
Non, mais je voulais réagir parce que en fait, le problème dans l'explication de Kevin, c'est que je suis globalement d'accord avec lui, mais dans son analyse, il dit deux choses complètement différentes. Il parle des médias et pour parler sous ton contrôle.
Global.
Ouais, sur les médias globaux.
Global, ouais. Non, même je dis que c'est global. Non, les médias, global. Oui, les supporters, les joueurs, les dirigeants.
Sur en fait la condescendance qu'on a avec beaucoup de clubs en Europe par rapport à notre réel niveau et par rapport à nos résultats. Là, je suis d'accord avec
exactly.
toi.
Exactly.
Maintenant, en fait, moi, la deuxième étape, c'est que nous, en tant qu'observateurs, on doit pas se satisfaire de ça. Moi, je suis désolé, Kevin, mais on va pas refaire le débat parce qu'on sera jamais d'accord. Mais que l'OM ne fasse pas troisième dans cette poule-là, ça me dérange et ça va me déranger année après année parce que, comme tu le dis dans ta deuxième partie d'argumentaire, on doit avoir de l'ambition et on doit faire comme ces pays-là quand on vient dans une compétition, que ce soit Manchester City, que ce soit Francfort ou que ce soit n'importe qui, on doit avoir cette ambition, comme ces clubs-là, comme ces pays-là, de réaliser quelque chose, d'aller loin dans les compétitions. Et moi, je trouve que cette résignation constante en disant « Ouais, ok, on a perdu contre Leverkusen, on a perdu contre PSV Eindhoven en barrage, bon, on a perdu contre Feyenoord en demi, bon, on a perdu contre Francfort. » Moi, ça me dérange, en fait. Et je pense qu'on a les moyens et qu'on doit avoir l'ambition, année après année.
Une question de volonté.
Voilà, je pense.
La seule chose qu'on a, c'est les moyens. On a aussi des joueurs pour Kevin.
Et nous, notre rôle, même si tu as raison d'insister sur le fait que sur les dernières années, on est à côté de la plaque, mais on doit dire que avec les joueurs qu'on a, avec les moyens qu'on dépense, on doit faire
beaucoup mieux.
Et quand je vois par exemple Séville, qui même dans une saison cataclysmique, cataclysmique où ils étaient 17e il y a encore deux mois, qui arrivent à aller faire une saison européenne extraordinaire en gagnant la Ligue Europa. Quand je vois West Ham qui est aux portes de la relégation cette année et qui mise, je vais pas dire à peu près tout, mais ils ont fait l'année dernière une demi-finale de Coupe d'Europe contre Francfort où ils sortent l'Olympique Lyonnais. Cette année, ils la gagnent. C'est en construisant, moi, je pense, ces histoires européennes et que ce soit les médias, les observateurs, les joueurs, les entraîneurs et même le président de la Ligue, Vincent Labrune, ça doit être un objectif majeur.
Marc-Antoine est avec nous, 32-16.
Et on ne doit pas accepter cette médiocrité. Bonsoir. On ne doit pas l'accepter.
Bonsoir.
Bienvenue dans Génération After avec Walid Acharchour, Kevin Diaz, Mathieu de Séville.
Bonsoir.
Bonsoir. Est-ce que tu penses, toi, qu'on est sur la bonne voie ou qu'on a toujours rien compris dans l'approche des coupes européennes?
Moi, je pense qu'on est dans la bonne voie. Parce que on avait des coachs qui étaient des profs de PS avant, souvent, et ou qui avaient des mentalités dépassées. Moi, je suis supporter d'Ajaccio et j'adore Roland Courbis. Mais quand j'entends Roland dire l'Europa Conference League, c'est la coupe des perdants, on s'en fiche. Si c'est la coupe des perdants et qu'on s'en fiche, pourquoi on n'arrive pas à la gagner? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Mais par exemple, sur l'Europa League, moi, je note, je me souviens... Moi, je regarde, comme je disais, en tant que supporter d'Ajaccio, je regarde ça d'un avis neutre, puisque j'ai pas de... Je supporte rarement mon club en Coupe d'Europe, voire jamais. Donc, je regarde d'un avis neutre. Je remarque que à une époque, on avait nos jeudis noirs de l'after, on avait les clubs, nos clubs français ne sortaient même pas de poule. On avait Saint-Etienne, on avait Lille, ils se faisaient taper par d'obscurs clubs kazakhs en poule.
Alexandria.
Voilà. Oui. Et on se faisait taper et on sortait même pas de.
On a eu vidéo tournoi à Bordeaux.
Dinopro, Dinipro Kriev, je sais plus quoi, là.
Non, Dinipro Kriev, vas-y,
On perdait contre ces équipes-là et en poule. Et là, aujourd'hui, bon. Moi, si je suis nul en sport et que je commence d'abord par courir à 100 mètres et que j'arrive à le faire en un certain temps, bah, je vais déjà peut-être me féliciter avant de me dire que je vais faire l'Ironman, quoi. Donc, je me dis déjà, dans un premier temps, on arrive à sortir des poules, ce qui n'était pas toujours le cas. Moi, je me souviens, voilà, il y a des équipes, Lille en général, a toujours un petit peu fait honte quand ils allaient en Coupe d'Europe, quoi. Je suis désolé pour les Lillois, mais...
Ils ont fait 8e quand même la saison dernière, de finale, Ligue des Champions.
Oui, dans une Ligue des Champions,
dans une poule chapeau
4. Voilà, je me souviens.
Mais on s'en fiche, Walid, de la poule chapeau 4. Puisque normalement, contre les chapeaux 4, on passe pas.
Oui, d'accord, mais voilà. Juste que...
Oui, mais après, tu vois, tu viens de refaire condescendance contre les chapeaux 4.
Non, ils ont été chapeau 4, Lille.
Oui. Ah, eux, ils ont été.
Oui.
Je croyais qu'ils étaient dans une poule niveau.
Vas-y, Marc-Antoine, tu peux conclure.
T'es un peu agressif ce soir,
Kevin. Pas du tout. Sachant que la poule de Lille, pour le coup, elle était pas homogène. Dingue selon tes cartons.
Elle était homogène.
Ouais.
Comme cette année pour l'OM.
Vas-y, Marc-Antoine.
Oui, donc déjà, Sirène, l'année prochaine, ils évitent de se faire sortir piteusement par le Shakhtar Donetsk qui joue dans un pays étranger parce que leur pays est en guerre et qui arrive en quart de finale. Ce serait déjà en huitième, ce serait déjà pas mal. Et je pense qu'il y a quand même, après aussi, il faut pas oublier que de temps en temps, on fait des coups d'éclat. Hein. Marseille a fait finale de Ligue des Champions, demi-finale de Ligue des Champions, pardon.
De Ligue Europa.
D'Europa League.
C'est insuffisant.
Demi d'Europa Conférence.
C'est trop irrégulier, quoi. C'est encore une fois, c'est.
Oui, mais après pour le coup,
c'est pas un problème. Sur les 7-8 dernières années, ils font une finale, une demi-finale.
Je parle de Marseille, je parle de.
Non, mais je sais que tu dis que c'est insuffisant.
Globalement, on a des effectifs, on a plus de régularité quand même.
Bah oui, Mathieu.
Non, j'ai écouté.
Vas-y, Marc.
Je pense qu'avec la génération cerveau, comme l'appelle Thibault Leplat, peut-être que sur le court moyen terme, sur le moyen long terme plutôt que le court moyen terme, n'essayons pas de courir avant de savoir marcher, parce que on a tout à réapprendre en France aussi. Soyons humbles. Et d'ailleurs, je trouve que Walid, bon, l'humilité, c'est pas ce qui le caractérise le plus.
Ah bon
quand Marseille tape aller-retour le Sporting Portugal, c'est pas une poule d'Europa League. Sporting, Tottenham et Francfort, même si c'est des équipes qui finissent pas européennes et qui font pas une super saison, c'est des équipes, normalement, on les tape jamais. Donc, Marseille n'a pas été ridicule en Ligue des Champions.
Enfin, oui.
Ils auraient dû faire mieux.
Donc, on est d'accord, là.
Mais ils n'ont pas été ridicules.
Personne n'a dit ridicule. J'ai dit que 4e place, sans satisfaire. Personne n'a dit ça.
Merci, non, Marc-Antoine.
Merci, Marc-Antoine. T'as raison sur Walid.
On dit.
Beaucoup de choses à dire.
On dit qu'Isolf si, on dit pas j'isole si.
Ah, c'est un Corse qui te le dit, Marc-Antoine.
D'accord, merci
Marc-Antoine. Je vous appelle d'Ajax.
Merci.
Mais, ouais. Bonsoir à toi, Marc-Antoine.
Tu m'aimes bien, en tout cas.
En fait, Marc-Antoine, le débat est un prétexte juste pour se faire waller.
Ouais,
C'est
le
balle de match à Roland Garros entre Świątek et Adam Maillard, Eric Salio.
Ouais, balle de match pour la Polonaise, la numéro mondiale. Elle attend l'instant de soulagement parce qu'elle souffre depuis une vingtaine de minutes face à cette Brésilienne qui est vraiment très athlétique et très percutante. C'est l'échange est installé. Świątek avec son revers qui tente de trouver l'ouverture. Là, ça va être compliqué. Oulala, elle a de la chance là. Ça reste dans le cours. C'est un petit miracle. Świątek qui va avoir le penalty là. Le coup droit. Elle monte. Non, ça ne suffit pas. Elle n'ose pas y aller.
Elle recule.
Et ça suffit.
Incroyable.
Ça ne suffit pas. Elle se fait prendre en contre. Riposte de la Brésilienne sur la ligne. 7 points partout dans le tie-break du deuxième set.
À tout de suite, Eric, pour la suite de ce match justement et de Génération After avec Kevin Diaz, Walid Echarchour et Mathieu de Stevie.
Marc-Antoine est parti.
Marc-Antoine n'est plus là, ouais.
D'accord.
Mais il rappellera, je pense qu'on va le réinviter régulièrement.
Je soupçonne Kevin d'avoir envoyé un message à quelqu'un
de sa famille. C'est impossible.
Quoi, qu'est-ce que tu as, toi?
Allez, à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 22h, Génération After.